bonjour, vous êtes sur France Culture. Tout à l'heure, dans la grande table d'été, nous parlerons de premier roman, juste avant de rendre hommage à Michel Butor, dont nous avons appris la mort hier soir. Il est 12h30. L'heure d'écouter le journal de la rédaction, présenté par Ludovic Piétenu. Bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. Le débat sur le burkini est une hystérie collective. Commentaire de Jack Lang que vous entendrez dans un instant. Le Conseil d'État se prononce cet après-midi sur la polémique de l'été. Il fixera la jurisprudence valable sur tout le territoire français. Sur le chemin de la présidentielle, nombreux seront les partis à organiser des primaires. Les Verts seront de ceux-là. Ils ouvrent aujourd'hui leur journée d'été à Lorient. Primaires, machines à rassembler. Assemblée ou à diviser, nous poserons la question à Christine Moncla du service politique. En Colombie, la fin d'un conflit armé vieux de 52 ans, une guerre civile avec les FARC qui a fait plus de 260 000 morts. Un accord de paix vient d'être signé après 4 ans de négociations, nous dira Nabila Hamel. Et puis nous irons en Afghanistan où notre correspondante Mélanie Kominek a assisté pendant plus de 10 heures au face-à-face meurtrier entre l'armée afghane et des assaillants à l'université américaine de Kaboul, prise au piège des étudiants et des professeurs désespérés. Mais d'abord, ces hommages que nous devions de rendre à deux personnalités importantes qui nous ont quittés ces dernières heures. D'abord, l'écrivain Michel Butor. Maëlys Besserie en parlait à l'instant. Michel Butor, 89 ans, un inclassable. Selon la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, Butor était l'une des figures du nouveau roman dont il sera largement question vers 13h25 sur France Culture dans la deuxième partie de la grande table d'été. Autre décès, celui de la couturière Sonia Riquiel, 86 ans, des suites de la maladie de Parkinson, maladie qu'elle évoquait dans un livre il y a 4 ans. Elle avait créé sa société, sa marque, ses boutiques. La première ouvrait en mai 1968, rue de Grenelle à Paris, pour des Parisiennes qu'elle définissait féminines, raffinées, sexy et indépendantes. 9 ans plus tard, en 77, Sonia Riquiel apparaissait dans ce reportage de TF1.
L'ère du temps de la mode a vraiment changé. Avant, il y avait des impératifs, des dictatures, il y avait des couturiers qui dictaient des choses. C'est-à-dire qu'on n'était pas à la mode quand on ne portait pas un tailleur cintré, une jupe à telle longueur, un vêtement fait de telle ou telle façon. Maintenant, je crois que depuis, mettons, 5 ans, peut-être même un peu plus, tout a changé complètement. Et ça n'est pas ça qui est être à la mode. On a essayé de tout abolir, les ourlets, les coutures, les boutons, les doublures, les longueurs. Vous pouvez vous habiller à n'importe quelle façon, n'importe comment. Donc en fait, tout ça a, je crois, disparu. Et c'est fantastique de pouvoir être enfin exactement comme on en a envie, sans dire je suis à la mode ou pas. On peut simplement dire maintenant je suis bien ou je ne suis pas bien, je me sens moi-même. Et c'est ça qui est important. Par exemple, mettre un vêtement à l'envers. C'est encore la liberté du geste, la liberté aussi vraiment de tout ce qui était dicté, de tous les dictats, de tout ce qu'on avait dit. On ne devait jamais porter un vêtement à l'envers, c'était pas possible, ça n'existait pas. Au fond, pourquoi pas ?
Sonia Riquiel décédée ce matin à l'âge de 86 ans, une femme libre, une pionnière. Salut ce midi François Hollande, elle revendiquait à l'instant, vous l'entendiez, la liberté de se vêtir, de s'habiller comme on veut. Voilà de quoi inspirer peut-être la polémique estivale. L'interdiction du burkini par une trentaine de maires de villes balnéaires continue d'enflammer les débats. Par deux fois suite à des recours, le tribunal administratif de Nice a validé les arrêtés des villes de Cannes et de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Mais c'est sur ce dernier recours que la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, va se prononcer tout à l'heure à 15h en audience publique saisie par la Ligue des droits de l'homme et le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. C'est sur ce point que s'exprimait ce matin chez nos confrères de France Inter, au micro de Patrick Cohen, Jack Lang.
La laïcité brandie par certains comme cache en vérité de leur animosité à l'égard des musulmans, à l'égard des arabes, à l'égard de tout ce qui ne répond pas à leurs critères. Aujourd'hui, moi, je suis navré, je suis consterné. Penser que ce débat sur le burkini occupe, j'espère que ça va s'atténuer, une place centrale, une sorte d'hystérie collective. Et puis, le professeur de droit que je suis est un peu attristé. Bon, c'est peut-être politiquement incorrect, mais tant pis, par les décisions prises par les tribunaux administratifs. Il y a une évolution de la jurisprudence qui se fonde, non pas sur des raisonnements en droit, mais sur des appréciations subjectives et politiques. publique, selon la tradition jurisprudentielle, c'est l'ordre public matériel. Y avait-il des menaces contre l'ordre public que la puissance publique ne pouvait pas enrayer? Non. Et donc, par conséquent, tout le reste, c'est l'ordre moral, tout le reste, c'est la subjectivité, et ça n'a rien à faire avec le régime des libertés. Et je forme le vœu que le Conseil d'État prenne une position plus conforme à notre droit.
Jack Lang, au sein du gouvernement, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, se déclare ce matin contre le burkini, rappelant, dit-elle, ses convictions féministes. Mais la ministre, c'était sur Europe 1, estime que la prolifération des arrêtés n'est pas bienvenue, car elle pose la question de nos libertés individuelles. Commentaire immédiat du Premier ministre sur RMC BFM TV, Manuel Valls lui répond.
Non, je pense que ces arrêtés ne sont pas une dérive.
Vous n'êtes pas d'accord avec
moi. Non, mais c'est, ou alors c'est elle qui n'est pas d'accord avec moi. Ça, c'est une mauvaise interprétation des choses. Ces arrêtés ont été pris au nom même de l'ordre public. Enfin, ils ont été pris à un moment donné, dans des plages du sud de la France, quelques jours après les attentats de Nice, dans un contexte particulier. Et le burkini, oui, c'est encore une fois l'asservissement de la femme. Et donc les hommes, les femmes de progrès doivent le dire avec beaucoup de force.
Le Premier ministre Manuel Valls, je le rappelle, c'est donc cet après-midi 15h, débat en audience publique au Conseil d'État qui n'a aucun délai particulier pour rendre sa décision 48 heures ou plus. Ouverture des journées d'été des Verts, ça se passe en Bretagne à Lorient, rencontre placée sous le signe d'une primaire à venir, ce sera fin octobre, primaire décidée après le renoncement de Nicolas Hulot. Pour les candidats putatifs, le temps presse, il leur reste quelques jours pour rassembler les parrainages. Ces journées à Lorient peuvent donc servir à cela. Bonjour Christine Moncla.
Bonjour,
du service politique de France Culture. Est-ce que cette primaire permettra à Europe Écologie Les Verts de sortir de cette longue séquence interne de déchirement?
C'est un espoir, mais il est mince, il faut le reconnaître, tant les écologistes vont à reculons vers cette primaire dont personne ne voulait au départ. L'année écoulée a en effet laissé des traces, les départs fracassants des écolocentristes et surtout de la patronne Emmanuelle Cosse au gouvernement ont à la fois clarifié la ligne politique, mais créé de nouveaux clans, les duflotistes historiques qui tiennent toujours la pareil, et les nouveaux dissidents comme l'eurodéputée Karima Delli. À ce jour, 4 candidats ont obtenu les parrainages internes suffisants. Karima Delli donc, Michel Rivasi, Cécile Duflot et Yannick Jadot. Et 4 ou 5 postulants supplémentaires cherchent encore des soutiens. Il leur reste 6 jours et aucun débat formel entre eux n'a été prévu à ces journées d'été de Lorient. Quoi qu'il en soit, fin octobre, Europe Écologie Les Verts devrait donc avoir un ou une candidate à présenter pour 2017 et un double défi, trouver d'abord les 500 parrainages pour la présidentielle cette fois, alors que le parti a perdu énormément de ses élus locaux entre 2014 et 2015. Et puis ensuite, il faudra aussi trouver de quoi financer cette campagne, sachant que pour l'instant, les caisses du parti sont vides.
Christine Moncla, on apprenait hier soir les derniers chiffres du chômage en France. Pour le mois de juillet, c'est une baisse de 0,5%. Pour la catégorie A, les chômeurs sans aucune activité. François Hollande saluait une tendance à la baisse. Ce matin, Manuel Valls s'estime que ça va dans le bon sens, une baisse qui concerne notamment le chômage des plus jeunes. Dans le monde, il en va tout autrement. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour
Ludovic. Les chiffres de l'Organisation internationale du travail affichent une dégradation de l'emploi des jeunes.
Oui, avec une hausse d'un demi-million sur un an de chômeurs chez les jeunes, eh bien, le chômage des jeunes, à savoir la tranche 15-24 ans, a connu une forte augmentation au niveau mondial et plus particulièrement dans les pays en voie de développement, ce qui s'explique par le ralentissement de la croissance économique, en particulier dans les pays émergents, notamment au Brésil, en Argentine ou encore en Russie. Mais le taux le plus élevé se situe dans les pays arabes où le chômage chez les jeunes atteint en moyenne les 30%. Un constat qui s'explique par l'effondrement des cours du baril de pétrole, puisque pour nombre de ces pays, eh bien, l'or noir reste la principale ressource financière, comme par exemple en Arabie Saoudite ou en Algérie. À cela, il faut aussi ajouter une forte hausse démographique chez les plus jeunes. En Algérie, par exemple, 70% de la population a moins de 35 ans. A contrario, en Asie du Sud-Est, cette fois, malgré le ralentissement économique, en particulier en Chine, le chômage des jeunes n'est que de 10,2%. Quant à l'Europe, elle se porte un peu mieux, puisque dans l'Union européenne, le taux prévu par l'OIT, l'Organisation internationale du travail pour 2017, eh bien, devrait descendre à 18,4% contre actuellement 20,3%. Mais pour autant, tout n'est pas réglé, car il faut savoir, Ludovic, que dans le sud de l'Europe, dans les pays du sud de l'Union européenne, eh bien, en particulier en Grèce et en Espagne, le taux de chômage reste très important, puisqu'il est respectivement en Grèce de 51% et de 45% en Espagne. C'est dire quand on sait que le niveau mondial du chômage des jeunes n'est que de 13,1%.
Analyse signée Hakim Kasmi. Jour historique pour la Colombie, un accord de paix signé avec les FARC. Écoutez ces quelques secondes de la voix et de l'émotion de son président, Juan Manuel Santos.
Colombianos, hoy 24 de agosto del año 2016, hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC.
C'est donc ce président conservateur colombien, Juan Manuel Santos, qui signe un accord de paix avec le leader guérillero marxiste Timoshenko. Les FARC, après 52 ans de guerre et 4 ans de pourparlers à Cuba, rentrent dans le rang. Il y aura tout de même, Nabil Amel, une dernière étape pour valider cet accord.
Oui, alors l'accord en 6 points sera transmis au Parlement ce jeudi. Pour jouer la transparence jusqu'au bout, le président Santos a promis que le texte sera également disponible sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais il appartiendra surtout aux Colombiens de se prononcer par référendum le 2 octobre prochain. Et d'ici là, même si la plupart des sondages prédisent un oui, le président Juan Manuel Santos devra encore convaincre. Ancien ministre de la Défense, le chef de l'État colombien en est à son deuxième mandat. S'il a été réélu en 2014 sur une promesse de paix avec la guérilla marxiste, ses prédécesseurs, Alvaro Uribe et Andrés Pastrana, restent partisans d'une lutte sans merci aux FARC jusqu'à les vaincre militairement. La guérilla a fait 260 000 morts, 45 000 disparus et près de 7 millions de déplacés depuis 1964. L'accord de paix négocié à la Havane a mis 4 ans à être finalisé. Son application nécessitera d'autres étapes et des efforts de part et d'autre, notamment pour la phase rassemblement des combattants des FARC et désarmement qui s'échelonnera sur 6 mois sous supervision de l'ONU. Il est prévu également l'intégration des guerrieros démobilisés dans la vie politique mais sans droit de vote jusqu'à 2018. L'accord prévoit également la réparation et les dédommagements pour les victimes du conflit et une juridiction de paix apte à condamner les crimes les plus graves.
Nabila Amel, au sujet du conflit syrien, celui-ci dure depuis maintenant 5 ans. Les Nations Unies publient un rapport très attendu depuis des mois sur l'utilisation ou non d'armes chimiques. 2 attaques chimiques sont imputées aux forces de Bachar al-Assad de façon certaine, ainsi qu'une autre au gaz moutarde par l'organisation État islamique en 2014 et 2015. La diplomatie française réagit ce matin. Jean-Marc Ayrault dénonce le rôle accablant du régime de Damas. Il appelle le Conseil de sécurité à prendre une réaction, dit-il, à la hauteur de la gravité des faits. Direction à présent l'Afghanistan. Washington condamne dans les termes les plus forts l'attaque qui s'est produite la nuit dernière à Kaboul, à l'université américaine, attaque non revendiquée pour l'heure. Les talibans disent même enquêter depuis ce matin. Des hommes armés ont pénétré dans cet établissement d'élite. Ils ont tiré sur les professeurs et les élèves. Cela a duré pendant plus de 10 heures. Le bilan et pour le moment de 9 morts, 26 blessés. Il risque de s'alourdir. Sur place, au moment des faits, il y avait très peu de témoins. Mais le reportage proposé ici est rare. Il est signé de notre correspondante à Kaboul, Mélanie Kominek.
Vers 18h30 hier soir, une explosion suivie d'une fusillade retentit au sein de la prestigieuse université américaine de Kaboul. Dans la panique, les étudiants et les professeurs présents sur les lieux se réfugient immédiatement à l'intérieur des bâtiments. Les réseaux sociaux s'affolent, des messages de détresse circulent dans lesquels les étudiants coincés parlent de terroristes armés partant à leur recherche, pendant que d'autres décrivent des scènes de chaos dans des classes remplies de poussière et de fumée. À l'extérieur, les ambulances affluent sur les lieux et des tirs résonnent dans la nuit. Les forces spéciales interviennent rapidement sur le campus et l'assaut est finalement donné. Selon les autorités, des centaines d'étudiants sont alors évacués, mais d'autres resteront piégés dans l'établissement toute la nuit. 2 assaillants sont finalement tués par les forces spéciales au cours des opérations. Mais ce matin, la confusion règne toujours. Des familles cherchent encore leurs enfants devant l'université, comme cette femme toujours très choquée.
Je n'ai toujours pas de nouvelles de ma belle-fille depuis l'explosion. On a attendu toute la nuit, nous avons été voir tous les hôpitaux, mais nous ne la trouvons pas. On demande aux forces de sécurité ce qu'il se passe, mais personne ne nous dit rien.
Le bilan reste donc pour le moment provisoire, mais ces disparitions font craindre un bilan beaucoup plus lourd. L'attaque, elle, n'a toujours pas été revendiquée.
Mélanie Kominek, reportage à Kaboul. 247 morts en Italie après le séisme survenu hier matin dans le centre du pays. On compte également 264 blessés hospitalisés. Le chiffre des disparus reste, lui, difficile à évaluer, de moins de 50 à plusieurs centaines de personnes. Difficile de savoir avec précision tant ces villages pittoresques et touristiques triple ou quadruple l'été. Le temps de ce jeudi après-midi avec toujours cette alerte canicule, vous allez l'entendre dans un instant sur un quart nord-est du pays, de Lille à Clermont-Ferrand jusqu'aux Alpes, puis en remontant sur la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Beau temps généralisé, chaleur écrasante, sauf quelques nuages dans l'ouest breton et la pointe du Cotentin. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal.